La Voz Sin Fronteras.
La Voz Sin Fronteras.
Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.
صوت بلا حدود.
لا فواي سان فرونتيير.
Une vie. Son nom Maouda. Son âge à peu près deux. Son exil avorté d'un seul coup. Né loin de ses terres natales. En cette Europe. Expulsé d'une frontière à une autre, dans le froid des camions, le métal des camionnettes. Maouda Chaouri, fillette kurde, et elle souriait parfois dans les camps de fortune, dans la gestion des corps. À travers la nuit, la vitre, une balle d'un flic, à travers sa joue, l'histoire. Lègue à sa famille une vie de deuil.
À l'écoute de Tom Nis, bienvenue avec l'équipe de La Voix Sans Frontières. Comme chaque quatrième mardi du mois, on traite des sujets en donnant la voix à des sans-voix. Aujourd'hui, on va y aller avec vous sur l'actualité d'aujourd'hui. C'est une actualité de Maouda, l'affaire d'une petite jeune de 2 ans qui a été tué. On va traiter cette affaire avec pas mal des intervenants qui sont avec nous, des invités. Il y a Selma Ben Khalifa, l'avocate de la famille de Maouda. Il y a avec nous sur plateau Anna Samara, présente le mouvement contre les violences policières et c'est un militant défenseur de droits humains. Aussi avec nous Najib. Bonsoir, et Tom Nis. On remercie bien sûr toujours Camille, Saïd et Hugo.
Maouda est née en Allemagne d'une famille irakienne. Le père de la petite Maouda est ouvrier de la construction. La maman est femme au foyer. Le couple quitte l'Irak en 2015 vers l'Allemagne. La famille décide de quitter l'Allemagne et réussit à arriver à Blackburn, au nord de l'île. Ils sont cependant expulsés quelques mois plus tard et vivent plusieurs semaines à Grande-Synthe, près de Calais, dans un camp de fortune qui rassemble d'autres réfugiés. C'est lors de leur nouvelle tentative de rejoindre le Royaume-Uni que se produit le drame. La nuit du 17 mai 2018, entassés à 30 dans une camionnette avec d'autres réfugiés venus d'Irak et d'Afghanistan, ils sont pris en chasse par la police sur plusieurs kilomètres. Une balle est tirée par un policier. Maouda est atteinte en pleine tête. Quand la camionnette s'arrête sur l'aire d'autoroute suivante, le père de Maouda sort avec la fillette inanimée dans les bras en criant « Please, ambulance, please, ambulance !» Mais les policiers pointent leurs armes sur les migrants, les font s'agenouiller, même le petit frère de Maouda. Ils menottent les adultes et décident de les mettre tous en état d'arrestation. Les policiers tentent de réanimer Maouda et appellent l'ambulance. Quand celle-ci arrive, les parents seront empêchés d'accompagner leur fille. Ils seront emprisonnés. Ce n'est que le lendemain, lorsqu'ils sont enfermés, qu'ils apprendront la mort de leur fille, sans interprète.
Ben, on est venu en soutien pour les parents, parce que c'est complètement injuste ce qui s'est passé là, et on estime qu'il y a une responsabilité de l'État, il y a une responsabilité du policier qui a tiré, il n'était pas obligé du tout. Et donc, nous, on voudrait que ce ne soit pas uniquement le passeur et le chauffeur.
C'est beaucoup plus large que ça, et notamment qui est Médusa. Je fais partie du groupe Montois de soutien aux sans-papiers. C'est pas normal, je veux dire, ces gens-là, ils fuyaient la guerre que notamment nos pays ont provoquée. Ils viennent ici pour un meilleur avenir pour eux et pour leurs enfants, et pas pour se faire tuer. Et en plus, c'est totalement injuste. Tout ce que les gens disent aussi, que les parents sont responsables, ils n'ont aucune responsabilité. Ils ont juste la responsabilité d'avoir voulu un meilleur avenir pour leurs enfants.
Je vous disais, on cherche dans le passeur, le coupable, idéal, qui c'est le coupable. Que vous soyez malheureusement sur une autoroute belge ou en plein milieu de la Méditerranée, quand il y a un drame, un naufrage dans le sens du terme, quand il y a un mort, tout mort, tout se fait. Parce que qui est le responsable? Le passeur. Et pourquoi? C'est pas compliqué, je ne vais pas vous faire un peu d'histoire ici. Tout simplement parce que les politiques de l'immigration, nos vies sont sous pression. Et elles font en sorte que la
Le loi 80 qui a été, le loi 80, modifié avec le droit. La criminalisation du passeur, elle date pas de ça. Elle date du mois de novembre. Loi de novembre qui apparaît dans le système à un moment très sensible, qui est juste à l'inauguration, un tout petit peu après l'inauguration du passage sous la Manche. Juste là, il n'y a pas de problème avec le passeur. Excusez-moi de le dire comme ça, on s'en fait complètement. Et pourquoi on s'en fait? C'est tout simplement parce que tous les migrants qui arrivaient en France en Belgique, leur but c'était quoi? C'était l'Angleterre. Alors on utilisait l'Angleterre en disant que il n'y a pas de carte d'identité, il n'y a pas de pour l'accès, etc. Et on s'en fichait parce qu'il n'y avait pas. À partir du moment où il y avait cet année retour aussi sous la mer, avec une obligation de d'améliorer ça, de mettre en place un système policier, là c'est la différence que nous avons eu, l'entrée en vue de la loi de l'enfant, qui a introduit l'article 77 de la loi de l'enfant, perfectement criminalisé. Alors pourquoi je dis ça? Mais je dis ça parce que le point de vue, je pense que le point de vue, parfois on fait une manipulation qui est le passeur, et en conséquence, il a dû poser un acte qui a amené au drame qu'on a connu. C'est-à-dire qu'il y a une participation à l'acte des co-auteurs dans le cadre de la participation. Il y a une participation des co-auteurs dans la rébellion armée, rébellion qui, d'ailleurs, devait ressortir d'un conseil de guerre. Alors, je vous en parle tout simplement parce que ce n'est pas une ironie, ce n'est pas une ironie qui soit officielle.
Qu'on va s'adresser à Selma, c'est où on est aujourd'hui. On sait bien que c'est le troisième procès. Où on est aujourd'hui juridiquement sur l'affaire de Maouda?
Très, très inquiétant dans cette affaire, c'est qu'il a failli ne pas y avoir d'affaire, puisque dans un premier temps, les policiers ont caché qu'il y avait eu un tir. Et ils ont caché que la police était responsable de la mort de la petite fille. Ensuite, comme ce mensonge ne tenait pas, ils ont dû admettre que c'est eux qui avaient tiré, mais directement est venue l'excuse que si le chauffeur s'était arrêté, eh bien le policier n'aurait pas été obligé de tirer. Or, même si quelqu'un n'obéit pas aux injonctions de la police, rien ne justifie que la police tire. Et il y a eu pas mal de réactions de l'extrême droite qui disaient que c'est la faute des parents, la faute du chauffeur. Et on a vu dans le tribunal que c'était la même logique qui animait les différents intervenants. On a beaucoup reproché des choses aux parents, tout en disant on vous reproche rien, mais quand même. Et ça a été jusqu'à ce que le parquet réclame 10 ans d'emprisonnement contre le chauffeur, alors qu'il réclame un an avec sursis,
au
contre
policier.
Le policier. Or, la petite est morte d'une balle dans la tête. C'est le policier qui est le plus responsable. Le chauffeur, oui, il n'a pas obéi, il aurait dû s'arrêter, mais ça n'est absolument pas lui qui est responsable de la mort de la petite fille. La mort de la petite fille est morte, c'est une violence policière. Et on voit qu'au tribunal, c'est principalement le chauffeur sur qui toute la faute à qui toute la faute est attribuée, et le policier à qui on trouve toutes sortes d'excuses, même si le parquet reconnaît que légalement, il ne pouvait pas utiliser son arme dans des circonstances comme celle-là. Dans un premier temps, les policiers ont dit qu'ils n'avaient pas tiré du tout, que la petite Maouda était morte parce qu'elle était tombée par la fenêtre de la camionnette. Ensuite, ils ont dit que c'était les migrants eux-mêmes qui l'avaient tué en tapant sa tête contre la fenêtre de la camionnette. Ensuite, ils ont dit qu'il y avait eu un échange de tirs et que le policier avait été obligé de se défendre.
Ouais.
Ensuite, comme il n'y avait aucune arme et aucun des migrants qui était armé, ils ont admis que le policier avait tiré, mais ils ont dit qu'il visait le pneu. Et puis, aujourd'hui, oui, ils ont aussi dit que les migrants s'étaient servis de Maouda comme bouclier humain. Et aujourd'hui, le policier, il dit qu'il ne savait même pas qu'il y avait des enfants dans la camionnette. Donc, en fait, on voit que la police, le policier individuellement, mais même tous ses collègues, passent leur temps à inventer de chaque fois de nouveaux mensonges. Et chaque fois, tout le monde fait semblant de les croire. Ils ne les croient pas en réalité. Mais on voit vraiment le système qui tente de s'auto-protéger.
Comment vous voyez vraiment, vous, l'intervention de policiers dans le...
Il est très important de séparer deux choses. Le policier en tant qu'individu et le policier en tant que membre de la police.
Ouais.
La police elle-même ne souhaite pas la bienvenue aux migrants. Elle organise les opérations Médusa de chasse aux migrants. Et lui, en tant qu'individu, il a participé à ça. Après, une fois qu'il est retiré de son rôle de policier, individuellement, il a l'air sincère et d'être sincèrement désolé. Et peut-être que lui, individuellement, il trouve vraiment que cette famille est la bienvenue en Belgique. La question n'est pas là. La question, c'est la responsabilité de l'institution police. Parce que lui, il peut individuellement être aussi désolé qu'il veut. Ça ne change rien dans le sens où, jusqu'à présent... 2 ans et demi plus tard, ces opérations Médusa continuent. Encore récemment, des jeunes Soudanais sont morts en étant renversés par des voitures sur l'autoroute parce qu'ils étaient poursuivis lors de ces opérations Médusa par des policiers. Donc, il faut, en tant que société, dénoncer le fait que nous traitons, nous, et je dis nous tous, puisque nous acceptons cette société-là, puisque nous ne sommes pas massivement dans les rues pour la refuser, nous acceptons ces chasses aux migrants. La police organise ça, et ce policier individuellement, ben, sûrement qu'il est vraiment désolé de ce qui s'est passé, mais la question n'est pas là.
C'est super important d'avoir des gens comme Selma qui portent ce genre de dossier et qui permet de mettre un éclairage dans beaucoup de zones d'ombre. Et moi, j'aimerais vraiment à ce niveau-là la remercier pour tout le travail qu'elle fait. Et voilà, encore merci Selma.
Moi, j'ai une question un peu, donc c'est un point de vue. Mais donc, si, disons, le policier qui donc représente la police est condamné à une peine, disons, symbolique. Donc, il faut aussi se poser la question de quoi c'est le symbole. Mais est-ce qu'on pourrait alors dire que la Belgique a avalisé l'infanticide pour des raisons politiques ?
Donc, dans leur degré d'impunité dans leur tête, condamner un policier à 1 an avec sursis, c'est déjà énorme. Ça, c'est le premier symbole. C'est que quoi qu'il fasse, il ne risque rien comme punition. C'est l'impunité organisée par le pouvoir judiciaire. Le deuxième symbole, je pense que c'est un dossier. Ce procès est symptomatique du racisme dans la justice, puisqu'on voit que le policier reçoit 1 an avec sursis et le migrant reçoit 10 ans. Il faut savoir que comme il n'a pas de papier, il va faire fond de peine, il va faire ses 10 ans.
Merci Selma, un grand merci pour ta participation. Comme tu viens de le dire, il faut qu'on combatte sur cette affaire, ça c'est clair. Aussi, comment vous voyez vraiment l'agression aujourd'hui de l'État? Pourquoi est-il encore nécessaire de mobiliser ou de se mobiliser pour réclamer justice pour Maouda?
Pour moi, il y a une nécessité de mobilisation, au sens où ce que nous permet d'observer l'affaire Maouda, c'est les mécanismes constitutifs de l'impunité policière et judiciaire. En l'occurrence, par tous les éléments notamment que Selma a pu porter, on a une observation claire de la structuration objective des modèles de protection des violences policières et des meurtres policiers. Par exemple, lorsque Selma notifie la question de la répartition de la peine et de la pondération de peine, il y a un mécanisme clair qui s'opérationnalise. Il y a un mécanisme de dépénalisation du meurtre, donc de la responsabilité du policier dans l'action du meurtre, par une criminalisation outrancière du passeur et du conducteur. Donc, on redistribue le volume de peine et on le cristallise autour d'un passeur supposé et d'un conducteur supposé. 1 an pour le policier, 10 ans et 7 ans pour le passeur et le conducteur. Admettons que le passeur et le conducteur soient acquittés. C'est les demandes spécifiques des deux avocats. L'avocat du conducteur et l'avocat du passeur demandent acquittement, après, en tout cas, énoncé du plaidoyer. Imaginons qu'il y ait acquittement. La question de la qualification juridique, pour moi, elle est très importante. Actuellement, l'avocat est soumis à la qualification d'homicide involontaire. C'est-à-dire qu'il est considéré comme partiellement irresponsable du tir, alors que c'est celui qui a produit le tir. Donc, c'est le meurtrier, c'est celui qui a commis l'acte initial. Et donc, s'il y a acquittement, cela signifiera que le volume de peine ne permettra pas de charger en termes de responsabilité l'action du meurtre. Et donc, qu'on pourra exiger en appel une requalification juridique. Nous, en tant que comité Maouda, initialement, on avait postulé pour que, en chambre du Conseil, soit fait usage la qualification d'homicide par dol éventuel. La qualification d'homicide par dol éventuel permet de reconnaître les conséquences liées à un acte. C'est-à-dire que l'exemple type qui permet de comprendre l'homicide par dol éventuel, c'est, imaginons que vous êtes face à un barrage de policiers, vous foncez. Vous n'avez pas l'intention de tuer qui que ce soit, mais vous avez quand même connaissance des conséquences de votre action. Vous savez que votre acte peut aboutir à un homicide, à un meurtre. Mais, cependant, comme vous n'avez pas l'intention de, la peine sera réajustée et donc diminuée en fonction du degré d'intention. Mais lorsqu'on parle d'homicide involontaire, la conséquence pénale, c'est irresponsabilité. Et donc, le volume de peine maximale, il est 2 ans. Par contre, dans le cas du conducteur ou du passeur, on parle de rébellion, crime par entrave, accident avec circonstances atténuantes ayant conduit à la mort. Donc, à ce moment-là, si on étudie vraiment d'un point de vue juridique la répartition de peine, là, on peut aboutir à une peine allant jusqu'à 20 ans. Donc, il y a vraiment une asymétrie entre, d'un côté, la qualification de base qui responsabilise le policier, on parle de homicide involontaire et qui conduit maxime à un volume de peine maximale de 2 ans, et de l'autre côté, un volume de peine maximale de 20 ans. Donc, on a clairement une mécanique qui, finalement, alimente une impunité permanente. Puisque si, au départ, on ne se bat pas pour que, d'un point de vue juridique, d'un point de vue de la qualification, on reconnaisse l'état de meurtre, finalement, l'impunité sera perpétuée. Et donc, toute notre bataille au quotidien en tant que collectif de lutte contre les violences policières sera rendue improductive. Et donc, moi, ce que je pousse en tant que membre du comité Maouda, mais également membre du collectif de lutte contre les violences policières, c'est que on s'intéresse véritablement à la structuration de la violence policière. Parce que la violence policière, elle ne se restreint pas au moment de brutalité. Il y a certes le moment où on se fait frapper, mais il y a toute la période qui va construire de la fiction et de la narration autour de cette dimension de brutalité. Il y a le moment où on se fait frapper et il y a le moment d'impunité. Et ce moment d'impunité, généralement, il n'est pas suffisamment travaillé par les collectifs. Pourquoi ? Parce qu'on considère que, en tant que militant, notre seul devoir, c'est trouver un avocat. À partir du moment où on a trouvé un avocat, toutes les questions de politisation des enjeux juridiques, ce n'est pas à nous de le faire, c'est à l'avocat. Et pour moi, c'est une erreur. Parce que les qualifications juridiques et toutes les logiques jurisprudentielles ont des conséquences politiques effectives dans les mécanismes d'impunité et de perpétuation de la violence policière. Donc si on ne se saisit pas de ces questions à un moment donné, on continuera à construire des discours qui, d'un point de vue de l'activation politique concrète, seront improductifs.
Non, mais j'allais dire de manière un peu grotesque, quand on analyse ça, on a l'impression d'avoir une justice politique, en fait, hein, totalement. C'est-à-dire qu'on a déjà décerné à l'avance, avant même qu'il y ait un jugement, on a l'impression qu'on l'a fait comme si on était une caricature de régime autoritaire, en fait. C'est-à-dire qu'on a, avant même le procès, déjà décerné le coupable, l'innocent. Et en fait, tout ce qu'on voit là, c'est un peu comme une forme de cirque sur une décision qui a déjà été prise. Et c'est pas mal quand tu parlais d'asymétrie. Ça veut dire que la justice, pour donner un semblant de légitimité, eh ben, ils ont quand même construit leur accusation sur une pratique juridique, mais ils l'ont fait de sorte qu'on soit sûr que les passeurs prennent 20 ans ou 10 ans, ou du moins une lourde peine. Et donc, ça ajoute un côté encore plus grotesque, je trouve, à la situation. Parce qu'on veut déguiser ça, on veut déguiser ce cirque, on veut lui donner un semblant de légitimité. Et là où des régimes autoritaires, ils auraient tout simplement assumé le côté, tu vois, le côté autoritaire, le côté on est en dictature, on a décidé que... Mais là, on fait comme si on veut donner une légitimité à tout ça. Et ça a pu encore plus ce côté surréaliste. Je trouve qu'il y a une particularité quand même de la Belgique sur certains points, tu vois.
Alors, dans le cadre, par exemple, on peut voir un peu comment la politique tue, comme on dit, les migrants aujourd'hui. C'est vraiment dans des cadres qui sont cadrés, des opérations comme Medusa, par exemple. Maouda a été tué dans ce cadre-là. Avant, c'était Samira Adamou. C'était dans un autre cadre qui a été vraiment... Et là, ça nous amène à une politique vraiment aujourd'hui d'État qui est, on peut dire, criminelle et aussi qui tue l'immigrant, qui est face à violer les droits humains où les gens ont vraiment combattu pour qu'on puisse avoir des droits. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Dans ce cadre-là, on a vu, par exemple, le comité Justice for Maouda, que vous avez vraiment s'adressé à une autre approche d'y aller amener le combat aux parlementaires. On a vu dans le dernier communiqué, je crois, dernier communiqué de presse, ou la pétition. Je sais plus exactement.
C'est une pétition.
Voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une manière d'amener à les institutions, etc. Tu peux nous vraiment éclairer ce point.
En tant que comité Maouda Vérité et Justice, nous exigeons l'installation d'une commission d'enquête parlementaire pour traiter de l'ensemble des questions et des problématiques dont le tribunal correctionnel n'est pas en compétence. Il y a une saisie en termes de compétences dont le tribunal correctionnel n'est pas en capacité d'instruire, notamment toutes les questions relatives aux opérations Medusa, aux collusions de fonctionnaires, la question notamment de la balise GPS qui se trouvait dans la camionnette et qui finalement a constitué le premier chapitre que le tribunal correctionnel a voulu complètement effacer. Il y a un panel de problématiques qu'on pourrait incarner dans l'enceinte de la commission d'enquête parlementaire. Et c'est pour ça que nous exigeons à ce que des députés parlementaires se saisissent de cette question et l'installent, finalement. Parce que la commission d'enquête parlementaire, elle a exactement les mêmes compétences qu'un juge d'instruction, sauf qu'elle ne saisit pas les mêmes problématiques. Et donc, la commission d'enquête parlementaire va produire une assemblée plénière qui conclura sur un rapport d'évaluation. Et à partir de ce rapport d'évaluation, on pourra produire des effets politiques concrets. Donc c'est pour ça que nous, en tant que comité, nous poussons à ce que cette commission d'enquête parlementaire soit mise en place. On nous répond assez régulièrement que la commission d'enquête parlementaire ne peut pas être mise en place dans la mesure où il faut attendre que le jugement soit acté, parce qu'il y a séparation des pouvoirs et que le pouvoir parlementaire ne peut pas interférer dans le jugement. Sauf que l'Assemblée, donc la commission d'enquête parlementaire, ne se saisit pas des mêmes compétences. Et donc, la séparation des pouvoirs est pleinement respectée. Dans le cas notamment de l'affaire Dutroux, pendant qu'il y avait jugement, une commission parlementaire a été saisie. Donc, cette justification représente pour nous un non-sens politique et véritablement une perpétuation du racisme pénal, puisque les députés parlementaires, sous ce prétexte de l'immunisation, de l'impunité, refusent clairement d'instruire des questions d'enjeux véritablement importants qui permettront, peut-être, nous l'espérons, un démantèlement de ces opérations Médusa et des mécaniques constitutives qui produisent au quotidien l'impunité policière et judiciaire.
C'est bien que tu en parles parce que moi, l'impression que ça me donne aussi du monde politique, et je crois qu'on peut dire même tous les partis confondus, hein, vraiment, c'est un aveu de lâcheté. Depuis le début de l'affaire Maouda et sur tout ce qui touche même aux violences policières, quand on voit la communication de tous les partis politiques, hein, c'est « il faut attendre le jugement ». Ces partis politiques disent ça alors qu'ils savent pertinemment, donc ils jouent les naïfs, alors qu'ils savent pertinemment que le jugement sera faussé. Ils savent pertinemment les rouages du système judiciaire et ils savent exactement la finalité de ces jugements. Ils savent que le jeu est biaisé. Mais l'aveu de lâcheté, c'est de dire on attend le jugement pour entretenir, en fait, pour temporiser. Et c'est là où parfois j'ai envie d'accuser le monde politique, tous les partis confondus, d'une forme de complicité. Dans la mécanique et dans l'entretien du système raciste. Et on le voit hein, dans les communiqués de presse, c'est toujours la même phrase, c'est justice doit être rendue, et ça a été pareil pour Justice pour Mehdi, ça a été pareil pour Adil, tous les partis politiques ont communiqué de la même manière. Parce que pour eux, il ne s'agit pas de remettre le système en question. Il s'agit de temporiser, je ne sais pas si ça se fait de manière consciente ou inconsciente, ce n'est pas le débat, mais il s'agit surtout de temporiser pour que l'émotion redescende et pour que finalement toutes ces histoires elles soient progressivement oubliées. Et là, j'en veux vraiment particulièrement au monde politique, même de gauche, de jouer ce jeu-là. Et c'est quand même dramatique, par exemple, dans l'affaire Maouda, que des militants, que le comité Justice pour Maouda, que moi-même, on ait dû s'organiser quelque part pour payer les frais d'avocat, pour pouvoir finalement faire en sorte que qu'il y ait un minimum de défense qui puisse s'organiser. Et c'est vrai que quand on toquait à la porte du monde politique à ce niveau-là, parce qu'on a entre moi de mon côté aussi le comité Maouda, on a entrepris des démarches pour faire en sorte que une partie du monde politique ou du moins de certains partis prennent en charge, ça a été un refus et c'est là où je me dis c'est quand même problématique que des affaires de violences policières qui concernent l'État, qui mettent en question l'État de droit, ben finalement quand les gens subissent ça, que ça soit les familles ou que ça soit le cas des parents de Maouda, finalement le premier obstacle, c'est la question financière. Et tout le monde fait semblant de ne pas le voir. tout le monde fait semblant de voir ailleurs, et on sait pertinemment que ces gens ne vont pas avoir les moyens pour mener, parce que ça coûte très 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 cher, ça prend énormément de temps. Ces histoires-là, elles vont peut-être être résolues dans 5, 10 ans, on ne sait pas. Et le premier réflexe qui doit être pris dans des cas de violence policière, surtout quand on le sait qu'elles sont systématiques, qu'elles s'inscrivent dans un racisme structurel, pour moi, ça doit être la prise en charge instantanée, financière, des personnes qui subissent ces violences policières. C'est pas normal que ces gens-là doivent se débrouiller et finalement abandonner, parce que quelque part, c'est la seule porte de sortie. Financièrement, c'est impossible de tenir. Et moi, à ce niveau-là, j'aimerais interpeller le monde politique, parce que il y a un moment, cet aveu de lâcheté ne peut pas continuer. Ils savent pertinemment ce qui se passe. Et tous les partis politiques confondus, hein, ils savent pertinemment ce qui se passe. Ils cultivent une fausse naïveté en pensant que oui, on attend ce que disait parfaitement Anas, hein, on temporise, on attend la réponse. Et en même temps, ces familles-là, les familles qui subissent les violences policières, ben, à un moment donné, ben, y a le poids financier. Le poids financier fait quoi ? On ne peut pas arriver jusqu'au bout du combat. Et tout le monde le sait, tout le monde fait semblant de voir ailleurs. Et ça, c'est profondément problématique.
Merci Najib, merci Anas. Mais après, dans les amis de comité Justice for Maouda, vous exigez vraiment, il y a toutes des demandes que vous exigez aujourd'hui. Et parmi, par exemple, oui, on voit par exemple que la manière comment vous montrez les points que vous exigez, c'est dans la globalité de la question, parce que Maouda, quand on parle sur Maouda, c'est l'enfance, mais aussi c'est la problématique qui tire pas mal des problématiques. On parle sur les frontières, on parle des violences policières, on parle sur la liberté de circulation. Et il y a pas mal des choses. On parle sur l'opération Medusa et sur d'autres opérations. On parle sur le Frontex. On parle sur toute une économie qui s'installe pour empêcher ces gens-là pour parfois tuer, comme on a vu dans l'action. Après, ce qui m'a attiré, bien sûr, parmi des points que vous avez cités ici, la commission d'enquête parlementaire, ça c'est bien. Ce qui m'a attiré, ce qu'on voulait vraiment tirer comme un passage dans notre interview, c'est la régularisation à tous et toutes les sans-papiers. C'était clair vraiment dans les... Et c'est ça, parfois, on ne le voit même pas dans l'exemple. On vient de parler sur les politiciens ou les partis politiques, dans leurs programmes, etc. Les élections passées, il n'y a aucun parti politique qui a exigé la régularisation des sans-papiers. Et c'est ça, on voulait vraiment voir...
Complètement, dans la mesure où, et c'est un élément qui ne revient pas suffisamment à mon sens, il ne faut pas oublier que avant d'être une petite fille, Maouda était une transmigrante. Et donc, lorsque le policier a tiré, il n'a pas tiré sur une petite fille, il a tiré dans une camionnette comprenant 28 transmigrants. Donc, c'est pour ça qu'on insiste véritablement sur la question du facteur racial, parce que c'est ce qui a déterminé véritablement la mort de Maouda. Les opérations Medusa sont des opérations nécropolitiques qui tuent quotidiennement des transmigrants, pas des petites filles. Et donc, finalement, notre exigence dans le plaidoyer que nous avons constitué de régularisation de l'ensemble des sans-papiers, c'est pour répondre formellement à des dysfonctionnements politiques pleinement organisés. Et donc, si on n'arrive pas à produire des solutions concrètes et à proposer des plaidoyers qui vont dans le sens d'une possible déstabilisation des mécaniques qui structurent la sous-citoyenneté, qui structurent l'incapacité pour les populations issues de la diaspora d'une forme de reconnaissance pleine, parce que nous-mêmes, en tant que sujets installés dans la diaspora, nous sommes racialement configurés de sorte à être imbriqués dans une sous-citoyenneté. Clairement, nous sommes des sous-citoyens. Et ça, à un moment donné, il faut pouvoir le reconnaître pour générer des valves d'interaction et d'intérêt commun. Parce que ce soit toi, Saïd, moi, Najib, Maouda, on a une capacité de communion qui se définit par justement ce facteur racial. C'est par le facteur racial qu'on va pouvoir se joindre. C'est parce que nous sommes codifiés en tant que vecteur intérieur d'une menace plus générale que, finalement, nous devons accepter d'accéder à la séparation politique. Et pour accéder à cette séparation politique, il faut pousser à ce que des revendications telles que la question de la régularisation des sans-papiers, le démantèlement des opérations Médusa, le démantèlement des opérations Frontex, parce que le lien entre Frontex et Médusa, il est clair. Clair, notamment parce que Médusa produit une politique de la pétrification. C'est-à-dire qu'on empêche les transmigrants de rejoindre Calais et ensuite l'Angleterre. Donc finalement, on force la construction d'autres routes, routes qui sont d'autant plus dangereuses et qui, si on reprend les chiffres, notamment des meurtres qui ont eu lieu, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que depuis l'installation de Médusa 2, on est passé en 2017 de 1600 personnes qui ont tenté de passer à 4000. Donc, depuis que Médusa 2 a été installée, et donc qu'on a renforcé les opérations Médusa, 2000 personnes supplémentaires ont tenté de passer. Donc, dans ces 2000 personnes, énormément de personnes qui sont mortes. Donc, finalement, les opérations Médusa, en dehors d'impliquer l'État-nation, ou en tout cas les politiques État-nationales de criminalisation migratoire, produisent des effets concrets, même à l'échelle européenne. Donc, il y a vraiment une interconnexion infrastructurelle qu'il faut pouvoir questionner pour produire des effets politiques concrets.
Justement, on parlait de ça avec Anas juste avant l'émission. On disait, c'est vrai qu'il y a une tentation, parfois même dans le monde militant, il y a une tentation de vouloir parler de Maouda exclusivement une petite fille, en essayant de soustraire le fait que c'est elle est migrante, qu'elle est sans papier, et qu'elle finalement elle partage le vécu de centaines de milliers de personnes, en tout cas en Belgique. Et cette tentation, elle vient du fait que parfois dans le monde militant, on veut élargir. Il y a certains qui veulent absolument élargir le public cible, en fait. Parce qu'on veut toucher, on est face à une constatation qui est de plus en plus dans ce monde occidental au déclin de l'empathie. De l'empathie envers les sans-papiers, envers les j'allais dire majoritairement les Noirs et les Arabes, ou pour dire gros. Et alors, on essaye d'élaborer des stratégies pour dire, on va essayer de toucher un large public, mais pour toucher ce large public, il faut un peu cacher que Maouda est sans papier. Donc, on essaye de ne pas joindre la question des sans-papiers à l'affaire Maouda. On essaye, je dis, parfois c'est fait consciemment, parfois c'est fait inconsciemment, et parfois, ça peut être fait, entre guillemets, ça peut partir d'une bonne intention d'essayer de se dire, si on parle vraiment d'une petite fille, on reste sur cette histoire de petite fille de 2 ans, la petite femme, le ménage moyen du Limbourg, il va peut-être être touché. Mais inconsciemment, en faisant ça, on dépolitise ce qui se passe. On tombe dans le piège et finalement, on humanise une personne pour mieux déshumaniser l'entièreté du groupe. Et c'est un vrai piège. Et malheureusement, parfois, on a tellement envie d'élargir, on a tellement envie de toucher un maximum de public que parfois on se perd. Et c'est ça l'important, c'est de ne pas se perdre et de rappeler que Maouda est une migrante sans papier et que des gens qui vivent cette réalité-là, ils sont très, 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 très nombreux en Belgique. Et c'est pareil quand on parlait des violences policières. Pour une personne qui est filmée, qui subit une violence policière, il y en a peut-être 10 000 qui ne le sont pas. Et comment on fait à un moment donné est-ce que, tu vois, on est toujours pris par... et après, ce n'est pas un jugement, parce que c'est très difficile de composer parfois avec les armes qu'on a en tant que militant. On ne bénéficie pas de moyens, donc on essaye parfois de faire du mieux qu'on peut avec les moyens qu'on a, mais parfois il y a toujours le risque de se perdre. Et c'est pour ça que parfois, en tant que militant, on doit se poser quotidiennement les bonnes questions. Et finalement, qu'est-ce qu'on sert et qu'est-ce qu'on dessert ?
Merci Anas, merci Najib. De Tomnis.
Avant de lire ce poème, j'aimerais juste dire que quelques jours après l'assassinat de Maouda, les gens qui étaient dans la rue ou qui étaient touchés par cette histoire-là ont demandé la démission du secrétaire d'asile et de migration et du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur a à peine daigné répondre, tandis que le secrétaire à l'asile et à la migration a envoyé un tweet en disant « c'est dégoûtant ». Il y a 20 ans, un peu plus que 20 ans, quand Semira Adamou a été assassiné, à l'époque, le ministre de l'Intérieur avait démissionné, ce qui est quand même un glissement dans la mentalité de la politique migratoire en Belgique. Quand les bureaux auraient avoué leur tort, toute arrogance en berne, fonctionnaires de la douleur jaunie, quand se voir aurait eu un regard loin des lettres et du téléphone, loin des promenades grillagées, et les soupirs sortis de l'isolement, dans le gris mitigé de rues à découvrir, dans des soirs choisi au hasard, dans les latitudes de nos crépuscules, désemparés de l'Occident, certes, mais privilégiés d'un champ discret, à deux, entourés d'un ciel déblayé, à partager les familiarités du soleil, délaissant enfin les lois des frontières. Avec, enfin, la pluie sur nos paupières, la grammaire de l'amitié entre les dents et aussi la promesse de ne rien oublier. À Semira Adamou, échappée de l'Afrique de sa naissance, étouffée dans un avion par les officiers d'ici.
Merci Tom Nice et on va passer à l'agenda militant avec Camille.
Merci Saïd. Nous venons de passer donc un week-end sur la Journée internationale des migrants où il y a eu évidemment comme chaque année le rendez-vous d'Amitié sans frontières. Cette fois-ci, c'était en ligne. Et je voulais juste vous dire que pendant les congés de fin d'année, il y a toujours les cuisines solidaires qui continuent, les distributions alimentaires aussi, évidemment, pour les personnes dans ce besoin-là. Et je voulais aussi vous annoncer que l'émission du mois de décembre sera... voilà, une émission consacrée à un hommage à Serge Noël. Nous avons aussi comme info que le procès pour Moda sera repris. La reprise, ce sera le 24 février. Et on va terminer l'émission avec Battement de cœur de Code Rouge, qui est une chanson qui a été justement créée pour Moda.
Je suis un zombie parmi les humains perdus ou un humain parmi les zombies, je sais plus, vicissitude. Ici les gens intelligents sont pleins de doutes, les cons eux sont pleins de certitudes. Le roi est nu, avoir peur de clams c'est du terrorisme à chaque coin de rue. La vérité sort parfois de la bouche d'une statistique. T'as 7 fois plus de chances de finir sous la balle d'un flic perdu. Éclaté sur une paroi, ajoute 20 fois plus si t'as la gueule de l'emploi. Une psychose qui s'accélère et tout le monde s'en fout quand un psychopathe a les codes nucléaires. S'ils sont prêts à renoncer à leur liberté pour plus de sécurité, faute c'est qu'ils ne méritent ni l'un ni l'autre. Les épaules se haussent et du riz des hommes qui maudissent les conséquences dont ils chérissent les causes. Le droit c'est de la subjectivité, vit dans un globe où humain est devenu bout de papier. Ça me hante, dessine-moi un pays, un coussin pressé 11 minutes sur le visage d'une femme qui chante. Dessine-moi un pays croulant, une balle qui s'est logée dans le visage innocent d'une fillette de 2 ans, flétrie. Pour certains, la seule chose qui s'est perdue ce jour-là, c'est leur sens de l'empathie. J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer, mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, un battement de cœur, un battement de cœur. Dessine-moi un pays, là on laisse dormir de nuit une mère avec le sang de sa fille, transposé dans un film d'épouvante. Les migrants sont devenus des cimes mouvantes. Le deuil aurait dû laisser place à un silence gênant. Même à télé ose dire que c'est la faute aux parents. Entends-tu les nimes offenses? Ils n'ont même plus le minimum. Du minimum de la décence, c'est le prime time quand il dégueule. Et même la pire ordure, c'est parfois quand elle doit fermer sa gueule. Mais là, c'était sûrement trop leur demander. À leurs yeux, qu'est-ce que valent nos vies de bas années? Dans quel foutu cauchemar, dans quel abîme? Rêver d'un monde meilleur est un crime. Et qui peut reprocher à une mère de vouloir fuir la guerre pour ses gosses? Qu'ils se montrent et jettent la première pierre. Rageur comme un ulcère, curieusement vous mettez plus de cœur à leur faire la guerre. Le cynisme sous perfusion, quand ils s'en servent d'épouvantail pour gagner les élections. Pour bombarder leur pays, les milliards tombent, il est con. Mais pour leur tendre la main, y a pas l'ombre d'un euro, ouais. Je sais pas ce qui est le plus choquant dans ce pays, le meurtre d'une fillette ou le silence qui en a suivi. Mahouda, ce mirage décline, une mesure de silence mais jamais silencieux quand la police assassine. Ouais, j'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté un battement de cœur, je fais tout pour l'ignorer mais à contre-cœur. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'humain, si ce n'est de voir l'autre comme un frère, une sœur? J'ai raté